Décryptage, Marie Cazadebé.
Dans quelques jours, la Russie entrera dans une période de commémoration, celle du 100e anniversaire de la Révolution d'octobre. En 1917, en quelques mois, la Russie passe d'un régime tsariste à un pouvoir bolchévique, premier régime communiste de l'histoire, à sa tête un certain Lénine.
Qu'est-ce que le pouvoir soviétique? Quelle est l'essence de ce nouveau pouvoir que dans la plupart des pays, on ne peut pas ou on ne veut pas comprendre? La nature de ce pouvoir, qui attire un nombre de plus en plus important de travailleurs dans chaque pays, est la suivante. Dans le passé, le pays était d'une manière ou d'une autre dirigé par les riches ou les capitalistes, mais maintenant, pour la première fois, le pays est dirigé, et de surcroît massivement, par les classes que le capitalisme a injustement opprimées.
Si la révolution russe est née d'une idéologie, celle de l'émancipation des classes ouvrières, elle tombera vite dans les travers de la dictature et de la répression de toute voix considérée comme dissidente. Alors aujourd'hui, quel regard la Russie porte sur son passé? Comment compte-t-elle marquer ce centenaire? Et comment Vladimir Poutine se place-t-il dans la grande histoire? Et des questions au cœur d'un hors-série de notre partenaire, le magazine Courrier International, et auxquelles nos invités vont répondre. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir Virginie Lepetit.
Bonsoir.
C'est vous qui avez coordonné ce numéro hors série intitulé Russie, les héritiers de la Révolution. On y trouve de nombreux articles issus de la presse russe. C'était important pour vous de privilégier le regard, la lecture russe de cet anniversaire.
Oui, en effet. En fait, ma collègue Laurence Sabé, qui est la spécialiste de la Russie à Courrier International, nous signalait depuis le début de l'année qu'il y avait énormément d'articles qui donnaient leur point de vue sur ce malaise face au centenaire de la Révolution, qui n'est visiblement pas du tout digéré, qui n'est pas assimilé dans l'histoire russe. Et on s'est dit que ce serait bien de donner à lire ce que disait la Russie d'elle-même, ce que disait la presse russe sur ce sujet-là.
Est-ce qu'on peut déjà rappeler l'importance de l'année 1917, donc dans l'histoire de la Russie, mais aussi du monde moderne?
Alors oui, 1917, on est en pleine Première Guerre mondiale. La Russie est partie prenante dans cette guerre, et c'est la Russie tsariste à ce moment-là, hein, au début de l'année. Ça se passe très très mal, il y a énormément de pertes humaines. Le pays est tellement vaste qu'il y a énormément aussi de difficultés à acheminer les vivres. Enfin, c'est très très compliqué. Et à ce moment-là, il y a une première révolution en février, qui est une révolution, on va dire, qualifié hein, par les articles dont on parle aujourd'hui de libéral-occidental, donc une révolution bourgeoise, et qui devrait aboutir, enfin c'est ce qu'elle annonce, à la fin de la guerre et à quelque chose qui serait un régime parlementaire. Et les mois passent, la guerre ne prend pas fin, rien ne se passe. Lénine revient, qui était en exil, revient en Russie. Et là, il y a une deuxième révolution en octobre, qui est la révolution bolchévique, qui est menée par les soviets, donc ces assemblées d'ouvriers extrêmement politisées et menées par Lénine.
Je l'ai évoqué en introduction, hein, on ne peut pas évoquer la révolution d'octobre sans évoquer ses travers, ses dérives autoritaires et répressives. Angelina Bouchouyeva a vu son père se faire arrêter, fusiller dans les années 30. Elle a ensuite été enfermée dans un camp au Kazakhstan avec sa mère et ses frères et sœurs.
Quand on est arrivé, on nous a installés dans le baraquement numéro 5. Il y avait une centaine de personnes. Je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. Le soir, après le travail, les femmes tricotaient des moufles pour les soldats. Celles qui dépassaient les normes avaient droit à une ration supplémentaire. On était nourris une fois par jour, une soupe au millet avec un petit morceau de graisse et deux morceaux de pain. Si on avait une ration supplémentaire pour les moufles, on en gardait dans notre gamelle pour le soir.
Témoignage recueilli par Muriel Pomponne de RFI. En quelques mots, l'ampleur de la répression du régime soviétique, Virginie Lepetit. Quelques chiffres peut-être pour comprendre un peu l'ampleur de cette catastrophe.
Alors, au moment où, à l'apogée de ce régime, donc à la période stalinienne dans les années 50, il y a 2 millions de personnes qui sont enfermées dans ce qu'on appellera l'archipel du Goulag. C'est surtout tout le territoire de la Russie. Et ce qui est particulier, c'est que les prisonniers politiques sont enfermés aux côtés des prisonniers de droit commun et dans un système carcéral qui est déjà difficile en soi, mais en plus avec des tortures, énormément des morts, des exécutions. Enfin, c'est extrêmement difficile. C'est une véritable blessure béante pour la nation.
Et à la lecture donc du dossier de Courrier International, on comprend hein, que la Russie n'est pas à l'aise avec cet anniversaire, l'anniversaire de 1917. La Russie, on vient même à se demander quel événement célébrer, une grande révolution ou un massacre sanglant.
Alors oui, il y a exactement, il y a énormément de thèses. Il y a des thèses officielles, hein, qui sont les thèses du Kremlin. Il y a aussi un comité qui a été mis en place pour qu'on décide justement comment on allait commémorer et ce qu'on allait commémorer. C'est très compliqué parce que les descendants de chaque faction, finalement, se retrouvent à discuter ensemble sur est-ce qu'il faut commémorer une grande victoire du peuple sur le tsar, est-ce que finalement tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire les massacres, on le compte aussi. Et ce que prévoit le Kremlin, donc Vladimir Poutine et le Kremlin, c'est surtout de ne pas semer la zizanie, pas de vagues, on garde le consensus. Donc, il y a une grande révolution qui n'est pas 17, mais 17 et tous les événements qui ont suivi, la guerre civile, etc. Et qui est quelque chose qui est une continuité de l'histoire russe. Ce n'est pas surtout une rupture de l'histoire russe.
Vous parliez de ce comité chargé d'organiser les commémorations. La gêne est telle que les partis politiques n'ont pas leur place.
Non. La présidence, le gouvernement n'ont pas voulu que les partis politiques entrent dans ce comité. Donc il y a des historiens, des cinéastes, des artistes, mais surtout, on ne doit pas politiser cet événement. C'est vraiment la crainte principale du pouvoir, c'est que cet événement soit récupéré à des fins politiques. Donc il y a l'Église et en plus dans ce comité, donc on est vraiment sur quelque chose qui normalement est prévu pour être consensuel.
Une expression qui revient souvent dans les différents articles, hein, de la presse russe que vous avez sélectionné dans ce hors-série, c'est celui de la réconciliation nationale. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est encore un pays divisé ?
Apparemment, oui, c'est encore un pays divisé entre les descendants des Russes blancs, hein, qui ont été les, on va dire, les premières victimes, hein, de la révolution, puisque c'était eux qui ont été chassés du pouvoir, et les descendants ensuite d'autres factions et les victimes des massacres qui ont suivi, les bourreaux qui ont exercé dans les camps, dans les goulags, ou simplement étaient des agents administratifs. Donc oui, visiblement, il y a un appel à une réconciliation nationale, mais tant qu'on ne pourra pas citer réellement ce qui s'est passé, comment faire cette réconciliation ?
Bonsoir Sabine Dulin.
Oui, bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure à Sciences Po Paris. La réconciliation ne s'est donc toujours pas faite depuis cette période en Russie ?
On peut dire que dans les années 90, la question était plutôt celle d'une éventuelle repentance du régime communiste à la suite donc de la fin de l'URSS. C'était une thématique qui était très présente à l'époque de Boris Yeltsin. Et puis finalement, rien ne s'est passé, donc il n'y a jamais eu véritablement de travail sur cette période communiste en Russie. Donc aujourd'hui, la réconciliation, elle se fait en fait parce que le pouvoir russe, Poutine, entend surtout ne pas soulever finalement ce qui est la réalité du moment fondateur, hein, celui de 17, c'est-à-dire l'existence non pas d'une révolution, mais de plusieurs révolutions, d'une multiplicité de révolutions qui vont pas forcément dans son sens. On peut parler par exemple des révolutions nationales qui se sont développées pendant 17 et qui ont donc opposé aussi les anciennes nationalités de l'Empire russe. On peut parler bien sûr de l'opposition entre les rouges communistes et les blancs qui ont débouché sur une forte émigration russe, et aujourd'hui Poutine se veut le président de tous les Russes, que ce soit les Russes qui aujourd'hui encore vivent à l'étranger, que ce soit les Russes qui sont en Russie même. Donc il y a une gêne effectivement par rapport à cet événement qui d'un côté est comme toute révolution, le sang a coulé. C'est un moment de division profonde de la société. Il y avait d'un côté des bourreaux, de l'autre des victimes, d'une certaine manière, sur la longue durée de la période Lénine puis Staline. Et tout ça ne peut pas véritablement entrer dans ce qui est aujourd'hui le discours officiel de Poutine, qui est un discours très unanimiste. Donc il ne faut pas de pluralisme. Il ne faut pas une pluralité de vues, il faut un seul discours. Et de ce fait, le seul élément qu'on peut garder de la révolution, c'est finalement cette figure de Lénine. Même si Lénine, sur le fond, pendant l'année 17, est un anti-Poutine, parce que c'est un anti-patriote, c'est quelqu'un qui va à l'encontre de l'État russe, Donc il est absolument anti-poutinien, mais en même temps, à partir du moment où les bolcheviks sont au pouvoir, où Lénine va reconstruire finalement une Union soviétique en faisant la reconquête des territoires qui avaient été perdus pendant l'année 17-18, c'est-à-dire qu'il va finalement dépasser la défaite de l'armée russe et rebondir, à partir de là, Lénine redevient une sorte de rassembleur des terres russes et peut devenir le fondateur de la Russie d'aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours son mausolée sur la place Rouge, et que les statues de Lénine restent présentes dans les villes russes. Ça n'empêche pas que Lénine reste malgré tout une figure bien moins populaire en Russie, en tout cas dans la Russie officielle, que Staline.
Oui.
D'un certain côté, dans la Russie d'aujourd'hui, on préfère la guerre à la révolution et on préfère Staline à Lénine.
Alors, illustration justement de ce phénomène, Virginie Le Petit, un article consacré au nombre de statues de Lénine en Russie, il n'a pas beaucoup évolué finalement depuis la chute de l'Union soviétique.
Non, il n'a pas beaucoup évolué. Je crois qu'il y en avait 7000 et il en reste 6000, me semble-t-il. C'est quelque chose d'intouchable, la figure de Lénine. En tout cas, cette figure mythifiée, statufiée, momifiée, enfin tout ce qu'on veut, c'est quelque chose auquel personne, enfin une chose à laquelle personne ne veut toucher. Surtout pas le pouvoir. Poutine ne cesse de répéter oui, patientons, nous verrons, ça se décantera, on verra si on doit le sortir de son mausolée et faire autre chose.
Alors c'est ça, la question se pose toujours. Ouais. 60% des Russes souhaiteraient qu'il soit inhumé. Pour l'instant, oui. Où se trouve-t-il? Où est-ce que sa dépouille se situe?
Alors pour le moment, il est dans son mausolée à Moscou, dans un lieu réservé aux héros, dont il est le seul locataire, on va dire. Et c'est un lieu de visite, il y a énormément de visiteurs, mais effectivement, bon, il y a des problèmes pratiques qui se posent, et il y a aussi cette question qui revient, qui est incessante, c'est cette question de l'inhumation. Et effectivement, la population y serait favorable, mais systématiquement, le pouvoir et l'église russe, l'église orthodoxe russe, qui étrangement a son mot à dire là-dedans, botte en touche. C'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher.
Je vous propose d'écouter une illustration de ce malaise autour du récit du passé de la Russie avec ce membre de Mémorial, une association qui défend la mémoire des victimes de la répression. Ivan Vassiliev sillonne les établissements scolaires avec une exposition itinérante.
Dans un établissement, un groupe d'étudiants est venu me voir avec une professeure âgée de 50-55 ans. Au milieu de la conférence, elle m'a interrompu en disant que les étudiants devaient reprendre leurs cours. J'ai alors demandé aux étudiants s'ils voulaient continuer à m'écouter. Ils m'ont dit que oui, que cela les intéressait, mais la professeure n'a pas cédé. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a répondu que ça lui faisait de la peine de me parler, que sa grand-mère était allée jusqu'à Berlin, que sa mère avait vécu dans l'URSS. Des propos qui n'avaient rien à voir avec l'exposition. Mais probablement, je l'avais offensée en disant que dans notre cher pays, tout n'était pas aussi beau qu'elle l'imaginait.
On sent bien effectivement à Virginie Le Petit à travers ce témoignage comme à travers la lecture du courrier international de cette semaine que la Russie a du mal à regarder son passé en face. Un article notamment est consacré à une polémique autour de la publication d'une liste de personnes ayant participé à la police politique. Vous pouvez nous raconter?
Oui, c'est la liste de Djoukov, donc un chercheur qui a mené une grande enquête et qui a publié toute une liste de noms de gens qui faisaient partie du NKVD, la police politique de Staline. Et effectivement, ça fait polémique parce que on met au même niveau finalement des exécutants dans le sens des gens qui ont des tueurs, des gens qui ont appuyé sur la détente et de simples agents administratifs. Et ça pose toute la question en fait du système soviétique, à savoir qui est coupable. Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est Staline et c'est sa garde rapprochée? Ou est-ce que c'est finalement toute la nation qui a participé à ce crime contre elle-même? Et au moins, ça commence à faire débat en Russie avec la publication de cette liste.
Il n'y a jamais eu de procès. 100 ans après, il y a des voix qui s'élèvent pour réclamer justice, notamment les Pays-Baltes qui souhaiteraient voir la création d'un tribunal anticommuniste. Finalement, à l'image de l'Allemagne, qui a su regarder aussi son passé, en l'occurrence la période nazie.
Oui, alors effectivement, les Pays-Baltes réclament un procès du communisme, qui serait un procès au tribunal pénal international ou au moins en mettant en place une autre instance. Ce qui se passe, c'est que c'est aussi noyé avec d'autres revendications, qui sont des revendications aussi économiques, parce que ça serait associé à des réparations. Et le problème aussi, c'est que comment définir ce qu'est le crime du communisme? Apparemment, dans les procès, dans les tribunaux, dans le tribunal pénal international, les crimes, ces crimes-là sont liés à des conflits armés. Et là, le communisme n'est pas quelque chose qui était forcément lié à une période de guerre. Ce n'est pas quelque chose qui s'est terminé avec une guerre non plus, ça s'est effondré. Mais donc il y a beaucoup de problèmes pour aller au bout de ce procès du communisme.
En Russie, l'orientation qui est donnée par l'État, c'est qu'on peut se souvenir des victimes, comme des victimes d'une catastrophe naturelle ou d'un incendie. Ce genre de mémoire, c'est normal. Mais voir qui est coupable de cette tragédie, qui donnait des ordres, qui les exécutait ou qui les favorisait, par exemple à travers la délation, ça, ce n'est pas dans les traditions.
Robert Latipov, président de la section locale de l'association Mémorial à Perm, une ville de l'ouest du pays où se trouvait un goulag. Sabine Dulin, que pensez-vous de l'analyse de cet homme? Est-ce qu'on peut se souvenir des victimes, pas des responsables de leur malheur? Est-ce que c'est comme ça que la Russie juge son passé?
Ah ben je pense qu'effectivement, j'aime bien cette expression d'ailleurs, victime d'une catastrophe naturelle. Je pense que déjà, effectivement, aujourd'hui, il y a cette tendance au niveau de l'image officielle de tout ce XXe siècle. Hein. C'est l'idée, finalement, qu'on a tous été victimes. Donc, voilà, on a tous été victimes. On a tous été victimes de la Grande Guerre patriotique et on a tous été aussi des héros. Donc, il y a moyen comme ça de gommer, effectivement, les résistants, les collaborateurs, bref, tout le monde a été victime, mais c'est une manière de restaurer une sorte d'unanimisme, hein, puisque le problème quand même de la Russie, c'est la difficulté à accepter un pluralisme d'idées et de vie politique. Alors, il est vrai en même temps qu'il faut reconnaître que dans toutes les familles de la grande Union soviétique, il y a eu à la fois des bourreaux et des victimes. Et qu'on pouvait être bourreau un moment, puis victime ensuite. Il y a eu pas mal d'enquêtes récentes sur des villages de Sibérie actuels, dans lesquels vivent ensemble les anciens bourreaux, c'est-à-dire les anciens gardiens de camp, et les anciens déportés qui finalement avaient fini par s'installer définitivement dans ces régions. Et souvent, on a des mariages mixtes entre les anciens enfants de gardiens et les anciens enfants de déplacés spéciaux ou de déportés du goulag. Donc, il est effectivement aussi, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que c'est bien plus difficile de dissocier les coupables et les victimes que dans le cas nazi, où finalement on avait quand même des ciblages, les juifs, les tziganes, etc., qui étaient absolument, la frontière était absolument imperméable entre ceux qui devenaient les victimes du nazisme et ceux qui pouvaient devenir des nazis. C'est pas du tout le cas du régime soviétique. Et même dans les pays baltes, on a aussi des baltes qui ont été des membres du parti, qui ont été des membres de la police politique sur le sol balte. Bref, on ne peut pas véritablement dissocier complètement les baltes d'un côté et les russes occupants de l'autre.
On comprend.
Sur le fond, c'est un régime qui a réussi aussi énormément à mobiliser la population derrière lui. Certes, il y a eu beaucoup de résistance, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui, soit parce qu'ils y ont cru, soit parce qu'ils voulaient survivre, soit parce que soit parce que c'était tout simplement la solution la plus simple et la plus c'était une manière finalement d'être du côté du pouvoir. Donc c'est beaucoup plus compliqué en fait.
Merci Sabine Dulin, historienne de la Russie, professeure à Sciences Po. Merci beaucoup Virginie Lepetit d'avoir été avec nous en studio. Alors je ne saurais que vivement conseiller la lecture du hors-série de Courrier International. Il est intitulé Russie, les héritiers de la Révolution. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à Arthur Tosu qui m'a aidé à préparer cette émission. Fabrice Viollet à la réalisation. C'était Décryptage, émission à retrouver sur RFI.fr et sur la page Facebook et la page Twitter de notre émission.